The Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Bienvenue dans le Tilt Show, je suis Aurore et je ne suis pas venue seule comme à chaque fois. Mes deux acolytes sont là, Tom.
Salut tout le monde.
Et Boule.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui s'est passé il y a une semaine, deux semaines.
Une semaine.
Je suis perdue.
C'était du 30 mai au 1er juin.
Il y a deux semaines, du coup. Merci pour le rappel des dates. S'il s'agit de la finale nationale associative, organisée donc par la FFPA que nous avons reçue il y a quelques temps. Je vais dire ça quelques temps, comme ça je ne suis pas perdue dans les dates. Et oui, il y a peu, on a reçu Gabi et Quinquin, du coup de la FFPA, qui nous parlaient de cet événement. Et on a eu la chance, avec Tom, de pouvoir y aller. Boule, je suis sûre que tu as plein de questions pour nous, du coup.
Oui, bien sûr, mais déjà, comment vous avez ressenti l'ambiance autour du tournoi, tout ça
Moi, j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Ouais. On pourra d'ailleurs y revenir parce que j'ai eu la chance d'avoir François Lascourège de Texapoker pour le micro du Tilt Show.
Du coup, c'était bien Texapoker qui faisait l'organisation du tournoi.
Absolument.
Comme dit Gabi.
Ouais. Texapoker.
Ouais, Texapoker.
Oh, ça marche aussi, Texapoker.
C'était Pépère.
Non, franchement, c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Il y a plusieurs moments où il y avait des tournois en simultané et il n'y avait pas du tout de rush au niveau des gens qui arrivaient, de collisions sur les
sides.
Ouais, voilà. Non, c'était très fluide et on ne se demandait pas est-ce que je vais rentrer, est-ce que je ne vais pas rentrer. On savait qu'ils avaient fait en sorte que la plupart, quasiment tous les joueurs puissent rentrer sur le tournoi, même s'ils étaient en liste d'attente. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment très bien, très fluide.
Très bien organisé, ouais. Très bien géré. Et du coup, après, au niveau vraiment du tournoi en lui-même, de la finale, du main event, du coup, de la finale du championnat de France, qu'est-ce que vous avez pu penser de la structure proposée, de la nouvelle formule sur 3 jours, finalement ?
Alors moi, je ne vais pas pouvoir trop répondre parce que je n'ai malheureusement pas été qualifiée pour la finale. On rappelle d'ailleurs que c'était à Aix-en-Provence.
Au Pasino.
Pasino Grand de Aix-en-Provence. Tom, c'est toi qui étais le grand qualifié du Poker Club de l'Oise pour, parmi les trois du Poker Club
finale.
De l'Oise, ouais, qui était présent. C'est toi qui étais là-bas avec nous et qui est avec nous en studio. Raconte-nous un petit peu ce que t'en as pensé.
La structure était vraiment belle à jouer. Des rounds de 40 minutes, je me souviens, avec un stack de 40 000. Donc vraiment à l'aise pour jouer. Donc voilà, après l'ambiance, parce que moi j'ai pas fait très longtemps dans le Maine. Après l'ambiance autour des tables, moi j'ai trouvé ça glauque un peu. Sur les tournois, aucune discussion entre les joueurs, ça rigolait pas. Comme les tournois qu'on fait dans les cercles ou les casinos en fait, où ça discute, où ça rigole. Et j'ai pas trouvé cette ambiance-là malheureusement.
Tu veux dire que t'as pas réussi à embobiner les joueurs qui étaient à ta table ?
Non, mais d'habitude, les gens ils discutent de tout et de rien, pas forcément de poker. Et là, j'ai trouvé ça une ambiance concentrée du matin au soir, alors que c'est des sides, il y avait. Voilà, c'est pas non plus. On joue pas à la maison, ça reste associatif encore, entre guillemets.
Tu trouvais que ça manquait de plaisir, quoi.
Ouais, moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir à jouer les sides.
Les sides ou le main
Le main, je l'ai fait très peu. Donc j'ai pas pu prendre de plaisir, mais les sides non plus en fait, l'ambiance au table m'a pas plu du tout en fait. Mais c'est dommage que l'organisation était vraiment au top.
Moi j'ai eu la chance de jouer 2 sides et franchement j'ai eu des tables très sympas, enfin j'ai pas ressenti ça du tout parce que les gens avec qui j'étais, on a bien rigolé, on a bien discuté. À un moment je me suis retrouvée sur une table avec un autre joueur du PCO et franchement, même avec tout le monde, enfin on a vraiment bien rigolé quoi, c'était agréable.
Alors, le fait qu'il y ait des joueurs qui se connaissent déjà à la même table, qu'ils soient du même club ou pas du même club, mais juste de s'être fréquentés déjà en dehors, fait que ça crée des tables conviviales. Je sais par expérience, dans ce type de tournoi, c'est vrai que, comme pouvait dire Tom, l'ambiance peut être en général assez froide aux tables. Par contre, dit qu'il y a 2-3 personnes qui se sont déjà jouées en interclub, des choses comme ça, tout de suite, ça détend les tables et tout le monde se prête au jeu et finalement, ça on revient tout de suite à la convivialité, à l'amusement. Mais c'est vrai que la plupart des tables, Pour la petite anecdote, l'année dernière, au Havre, les croupiers étaient contents d'arriver à notre table, parce qu'ils voyaient qu'à notre table, il y avait de l'ambiance, tout le monde parlait, tout le monde rigolait, on nous entendait partout dans la salle. Mais aux autres tables, c'était assez, justement, personne ne disait rien, tout le monde était dans son truc et tout, machin, donc c'est, l'ambiance peut se ressentir différemment.
Tu confirmes cette impression-là, quoi.
Ouais, c'est vraiment le fait qu'il y ait déjà des personnes qui se connaissent, encore une fois, du même club ou non. Ça crée déjà une convivialité, le fait qu'il y ait 2-3 joueurs qui échangent, après les autres viennent plus facilement se regrouper que quand personne ne se connaît, où là vraiment chacun est dans sa bulle. Et
justement, moi je trouve ça un peu bête en fait que l'organisation fasse un D1 et un D1B avec les joueurs de la même région en fait.
Ouais, mais c'est compliqué sur un long week-end comme ça, parce que t'as des gens qui viennent de loin, qui traversent toute la France pour aller à Aix-en-Provence.
En fait, le D1, ça gâche le plaisir, parce que tu joues... On prend l'exemple de Tintin, qui est du PCO, qui a joué avec une table où il connaissait 6 joueurs sur 8.
Pas de chance au tirage.
Ouais, mais
c'est bien pour la convivialité, mais c'est vrai que...
Je trouve qu'il y a beaucoup de tables qui se ressemblent, où tout le monde se...
Le D1, c'est inévitable. Quand tu vas à Vegas jouer le main event de WSOP, t'as A7 ou 8 D1 ou quelque chose comme ça.
Oui, mais t'as... Déjà, pour le main event, je sais pas pourquoi, mais déjà, on choisit son dé. Et là, en fait, on arrive, on nous met dans un dé par région, en fait. Et je trouve ça un peu bête, moi.
Ouais, la France est séparée en deux. Les clubs les plus proches de la ville organisatrice jouent le premier D1. Ça laisse une journée de plus aux gens qui sont plus éloignés pour pouvoir faire la route tranquillement, en fait, et venir se poser.
Ouais, c'est dommage, je trouve.
Après, tout peut pas être parfait non plus.
Mais du coup, t'as pas eu de gens que tu connaissais toi à ta table, parce que t'as trouvé que l'ambiance n'était pas...
Moi, j'ai joué avec 3 ou 4 que je connaissais.
Ah, malgré le fait que tu connaisses, mais ça reste 3 et 10.
Même sur les sides, des trucs comme ça, franchement, c'était pas agréable à jouer.
T'as pas eu de chance, hein, parce que moi, j'ai eu des bonnes tables.
C'est sûr que j'ai pas eu de chance.
C'est parce que tu faisais une sale tête, sûrement.
Ouais.
Alors, Boule, du coup, toi... T'as regardé, tu nous as suivis depuis ton canapé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le vainqueur, par exemple, ou sur les stats des joueurs de notre région, des choses comme ça? Je sais que t'as regardé tout ça.
Ouais, bien sûr. Du coup, le vainqueur, il s'appelle Renaud Perraudeau. C'était son premier tournoi live.
Oh la vache.
Du coup, un titre de champion de France pour un premier tournoi, c'est plutôt sympa. Ça fait 3 ans qu'il avait rejoint son club qui est le... Alors là, attention, là va falloir que je sorte les rames. J'espère pas me tromper dans la prononciation, c'est le Néofléen de poker.
Okay.
Dans les Yvelines, dans le 78. Du coup, il s'appose en heads-up face à Nicolas Del Pozzo du Luberon Poker Club dans le 84, dans le sud. Et la dernière main, du coup, il a gagné avec 5-5 contre 7-10 de cœur. Avec sur un flop 5 et 8 de cœur, 9 de pique. La turn, un 4 de cœur. Je crois qu'ils sont partis à tapis à ce moment-là.
Donc un brelan.
Donc brelan contre couleur. Et le 8 de pique qui tombe à la fin, qui lui fait un full. Mais apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur la table finale, en ayant suivi bien la table finale, il a marché sur la table finale où il a touché que des grosses mains, pas mal sur la TF. Et à chaque fois qu'il y avait un tapis qui s'opposait à lui, il était blindé.
il payait et il récoltait.
Bravo à lui. Et du coup, on peut juste faire un petit point sur ce qu'il a gagné. Il a gagné 2 buy-in de 1000 euros à Vegas.
Allez.
Sympa. Avec du coup 1500 euros pour les frais de déplacement.
D'accord, c'est pas mal, ouais. En général, l'aller-retour, c'est 1000 balles, et puis l'hôtel, 500 euros la semaine.
Ouais, ça doit tourner autour de ça.
Ouais. Un peu juste peut-être pour l'hôtel, il faut partir à deux.
Après, il faut peut-être sortir un peu de sa poche aussi, mais bon, ça va. Déjà, il a pas mal de choses de payer. Après, il a un tournoi à 500 euros avec les frais payés.
Ok.
Bon, je crois que c'est la finale du Winamax Poker Tour. Il a un tournoi à 500 euros, par contre, où les frais ne sont pas remboursés à côté.
D'accord, juste le buy-in. Moi,
et il a un ticket online à 125 euros sur Winamax,
qui est le partenaire de la FFPA.
Qui est partenaire de la finale. Et du coup, et aussi, il a bien sûr la petite prime pour les petits billets pour aller à Vegas avec, de un peu plus de 1900 euros de gains à la fin.
Cool. Elle a gagné du coaching aussi, je pense.
Alors, je sais pas. Là, par contre, j'ai pas eu l'info et c'était pas marqué dans les.
Fabien Perrault était coach partenaire de l'événement et il offrait du coaching à toute la TF. Donc
oui, là.
En théorie, les gars, je sais pas combien du coup quel était le package pour le premier, mais il a gagné du coaching aussi, ce qui va peut-être pouvoir lui permettre de faire de très belles perfs sur les prochains tournois. On lui souhaite en tout cas.
Et du coup, au niveau des perfs régionales, on a la 15e place, le meilleur régional, c'est Mathieu Tronchon du Poker Club Saint-Quentin. Juste derrière, à la 16e place, on a Aldric Bourgeois du Soissons Poker Club, dit l'Abbé pour ceux qui connaissent plus sous son pseudo. Et pour les performances isariennes, pour les joueurs de l'Oise, on a la 36e position, on a Johan Ponchon du Pumba Poker Club.
Oui, Johan, on l'a suivi un petit peu. Il était avec nous pendant les pauses et
il
tout ça.
Il était chip leader du D1A, de D1B.
Ouais, il était chip leader à la fin de la première journée.
Il avait bien travaillé.
C'est ça.
Il bien représenté l'Oise.
Quand même des belles perfs hein, pour le coin. On est content. On aurait préféré mieux encore, mais voilà. Trois joueurs déjà sur 9 à peu près qui sont partis. Saint-Quentin, Soissons, PCO. Ah non, Saint-Sauveur, ils étaient combien? Trois aussi?
Moi, ouais, je pense qu'il y avait l'étincelle, il y en avait un peu de partout, là, je pense, quoi. Mais déjà trois joueurs, c'était la finale. Il y avait 416 joueurs à la finale.
Oui.
C'est déjà une belle perf, quoi. Quand on est dans le top 50, c'est plutôt sympa.
Le top 50. Eh bien, si vous voulez, je vous propose d'écouter l'interview de François Lascourège que j'ai pu faire sur place. Donc François, c'est un peu le numéro 2 de Texapoker en France, derrière Apo, que tout le monde connaît au moins de nom. Texapoker, c'est une entreprise qui s'occupe d'organiser des tournois dans les casinos, mais il en parlera beaucoup mieux que moi.
Bonjour Aurore, bonjour à tous. Donc oui, en effet, on est ici à Aix-en-Provence dans un des plus grands casinos de France. C'est le fleuron du groupe Partouche. Le casino d'Aix-en-Provence, on organise les plus grands tournois de France. C'est un très bel établissement. Et aujourd'hui, on est au CFIPA donc, pour le tournoi, la finale nationale du poker associatif.
François, quel est ton rôle dans cette organisation de tournoi, puisque c'est la Fédération française de poker associatif qui est à l'origine du coup de ce tournoi? On est à Aix-en-Provence et toi, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans ?
C'est simple et compliqué à la fois. Il faut se dire que mon rôle dans la société aujourd'hui, c'est la direction de tous les produits qui nous entourent, donc tous les festivals de tournois live, donc de la préparation avec les dates qui vont avec le programme, les structures, le matériel, toute cette partie-là m'importe dans tous les établissements et tous les tournois qu'on organise en France. Maintenant, spécifiquement au CFIPA, c'est un accompagnement que nous avons depuis presque 10 ans, avec FFPA, anciennement CDC, et on les accompagne à organiser cet événement du début à la fin. Donc il y a une grosse partie de préparation évidemment, mais ensuite c'est une gestion entre guillemets sur place qui est plus facile, plus à l'aise si on est bien préparé. Et tous les ans, on se prépare plutôt bien.
Donc en gros, la FFPA, elle ramène les joueurs et toi, tu organises du coup le lieu, les dealers, tout ce qui concerne vraiment le tournoi en tant que tel.
Oui, on peut donner un peu plus de détails. La Fédération française de poker associative, ce sont des bénévoles. On va se le rappeler. C'est une association loi 1901 qui réunit d'autres associations loi 1901, d'accord ? Des associations qui vont jouer dans certaines villes. Bah, la FFPA va réunir tous ces joueurs. Ils vont qualifier certains de ces joueurs-là sur cette finale. Ensuite, nous, notre rôle avec Texapoker et le mien en particulier, eh bien, c'est de faire que cette finale soit dans les attentes de la FFPA, donc organisée comme ils le souhaitent, avec les répartitions des prix qu'ils souhaitent, avec les dotations qui sont offertes par les partenaires. Mais après, il y a tout le rôle d'organisation avec le casino. Donc le casino n'a pas forcément une habitude d'avoir un tournoi de poker. Ici, on l'a, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être un établissement qui est moins préparé dans ce genre d'organisation. Mon accompagnement est là pour que tout se passe bien à ce niveau-là. Et après, évidemment, tu en as parlé, les croupiers sont une des valeurs les plus importantes dans ce genre de tournoi. Donc on réunit, on recrute le staff pour l'organisation du tournoi, les encadrants aussi. Nous avons des managers, des floor managers qui sont là sur le terrain, donc du coup pour veiller au bon fonctionnement, comme un arbitre de foot sur un match de foot. Bah, après, il y a tous les périphériques, le restaurant, le bar, les caisses, qu'on appelle les physios, donc c'est les entrées des établissements, la sécurité. Tout ce pôle-là est à organiser, gérer, avant l'événement, si on a une bonne préparation, comme ça, sur le terrain, bah, en fait, on n'y voit plus rien, on n'y voit que du feu, tout roule.
Oui, parce que là, on est à Aix-en-Provence cette année, mais l'année dernière, on était au Havre, l'année d'avant, on était à Annecy, et à chaque fois, c'est Texapoker qui a géré cette organisation, cette logistique-là de préparation de tournoi.
Exactement. C'est aussi un gros avantage que ont soit la FFPA, soit les casinos de faire appel à nous pour ce genre d'événement. Par notre expérience, notre expertise également, on fait que la FFPA ont ce qu'ils souhaitent et le casino ne sont pas démunis d'une organisation qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Dans l'attente de l'affluence, l'attente des certains joueurs qu'on peut avoir, bah on s'adapte aussi au niveau de la restauration, on va s'adapter au niveau de l'accueil. Alors la majorité du temps, on fait la même chose, mais les casinos n'ont pas forcément l'habitude d'avoir autant de joueurs sur un festival. Du coup, ils ont besoin de cet accompagnement-là permanence.
Par définition, un casino, c'est quand même un lieu de gambling où on va jouer de l'argent, etc. Pourquoi ils ont besoin de Texapoker pour pouvoir organiser des événements comme des tournois, comme aujourd'hui? Je pense aussi à d'autres tournois, parce que dans le coin autour de Compiègne, là, plus près de nos auditeurs, nous, on va pouvoir aller au casino de Forges-les-Eaux, qui est derrière Beauvais, au casino de Saint-Amand-les-Eaux, qui est plutôt vers le nord. Et c'est aussi des événements, des festivals Texapoker. Pourquoi les casinos font appel à vous dans le cadre d'organisation de festivals poker?
C'est une très bonne question. Et il y a deux aspects particuliers du poker. Alors le premier, le poker est un jeu où les joueurs jouent entre eux, contre eux. Alors qu'un casino, on a l'habitude, dans la majorité des jeux qui sont joués dans un casino, de jouer contre la banque, jouer contre une machine à sous. Des jeux de contrepartie, le blackjack, l'ultimate, ils jouent contre la banque, d'accord ? Les règles sont faciles. Quand on joue contre la banque, c'est marqué noir sur blanc. Dans le poker, on est dans un jeu où les joueurs jouent entre eux, contre eux, d'accord ? C'est un jeu qui est individuel et qui est beaucoup plus complexe. Quand on est dans un casino, on n'a pas forcément un expert du poker dans un établissement. Donc du coup, on fait appel à des experts pour pouvoir maîtriser ce jeu-là. Ça, c'est un point qui est très essentiel, c'est la complexité de ce jeu.
Alors du coup, j'ai une question subsidiaire, peut-être que tu vas y répondre dans ton deuxième point. Parce que les établissements, souvent, ils font pas de tournois, mais du coup, ils vont quand même avoir des tables de cash game. Donc ils sont quand même dans cette complexité, ou alors est-ce que c'est vraiment des règles casino qui vont s'appliquer ?
Alors, c'est très très bien que tu me dises ça, parce que ça va dans mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est l'événement. Un établissement qui ne fait pas d'événement appelle toujours un prestataire. Parce qu'un établissement à un événement attire plus de monde, mais quand on dit attirer plus de monde, il faut plus de personnel pour gérer ce monde-là. C'est dans tous les événements, c'est ça. Et nous, aujourd'hui, Texapoker, c'est de l'événementiel. Le cash game n'est pas de l'événementiel. Le cash game est un jeu compliqué, est un jeu qui est complexe. C'est vrai, il faut de l'expertise pour gérer ce jeu-là. On arrive à avoir, et la majorité d'établissements, Partouche en l'occurrence, parce qu'ils ont un manager poker national qui aide et qui aiguille les autres managers dans chaque établissement. Voilà, il y a toute une chose qu'ils arrivent à régler au niveau de la complexité de ce jeu. Ok, ça c'est fait. Maintenant, l'événement, c'est là où c'est difficile. Un établissement qui n'a pas les prestataires pour amener des croupiers, des managers pour gérer cet événement-là, ou des caissiers, ou tout le staff qui va faire que plus il y a de monde, plus il faut de staff. Et donc l'événement prend en charge, prend cette difficulté et cette ampleur dans l'organisation où Texapoker est un indispensable pour les établissements pour faire des événements poker.
Et oui, parce que du coup, en cash game, là, pour être descendu au grand salon du Pasino Grand de Aix-en-Provence, on était à 3 tables de cash game. Combien on est monté de tables au total? Genre, hier soir, il y avait 3 événements ou 4 événements en même temps dans cette grande salle. À combien de tables on est monté, pour donner une idée aux auditeurs?
Ici, on a un dispositif avec 45 tables. On n'a pas notre capacité maximale parce qu'on n'en a pas le besoin, mais on a 45 tables. Il y avait 4 tournois en simultané. Au maximum de tables qui ont été ouvertes hier soir, grossièrement, on était sur les 37-38 tables. Voilà, c'est ça l'événement. C'est s'adapter, entre guillemets, à la fréquentation aussi des gens sur le tournoi, qui fait que on a besoin de plus de staff pour accueillir tous ces joueurs. Parce qu'il faut rappeler que 38 tables, il y a 9 joueurs à chaque table, ça fait du monde dans la salle.
Donc on est à environ 350 joueurs en même temps, ce qui effectivement est difficilement comparable avec les 3 tables de cash game que j'ai vues en bas. Et c'est là que toute l'expertise du coup de Texapoker, elle intervient pour organiser ça. Pour 38 tables, ça veut dire 38 croupiers, mais j'imagine qu'il y a aussi des roulements parce qu'ils ne vont pas tourner toute la nuit. Il y a combien de croupiers sur un événement comme hier soir?
Au total, on est 50, dont 3 managers, mes 2 floor managers et moi-même. Donc on a 47 croupiers sur cet événement.
50 personnes, du coup, juste Texapoker pour pouvoir faire tourner l'event des CFIPA. avec les sides évidemment. Et tu sais combien il y avait de bénévoles chez la fédération ou pas?
Oui, c'est une petite dizaine. Une petite dizaine comptant 15-16 personnes en bénévoles de la FFPA présents sur l'événement.
Ok, donc on est à plus de 65 personnes pour faire tourner un événement qui aura au total ramené, je sais pas, entre 400 et 500 personnes.
Alors, le chiffre facile à donner, c'est les 416 joueurs qui sont uniques et qualifiés pour la finale principale, la finale nationale. Ensuite, il y a des petites finales qui sont annexes et ces personnes viennent aussi accompagner. Donc, du coup, c'est plus de 400 personnes qui viennent sur cet événement. Et il faut compter aussi les joueurs de la région. On est dans un casino qui a un poker régulier. Nous avons des tournois réguliers ici tous les jours de la semaine. Donc on a une clientèle poker autour d'Aix-en-Provence qui est très très importante. Et donc ils sont aussi présents sur ce tournoi parce qu'il y a plein de tournois annexes qui sont ouverts à tous.
Du coup, est-ce que ça veut dire que Texas Poker intervient toutes les semaines au casino d'Aix-en-Provence?
Oui, exactement. C'est un des établissements où nous sommes prestataires pour eux et nous sommes là toutes les semaines. Alors quand on parle de prestations, quand on parle d'événements, les tournois réguliers sont des événements qui sont bien moindres, mais qui amènent aussi du staff en plus. Et chaque mois, on va retrouver un événement un peu plus particulier, où on va avoir un peu plus de tables, donc un peu plus de croupiers. Là, je vous donne un exemple. Dans trois semaines, on a le Giant ici à Aix-en-Provence. Donc on revient dans la salle de spectacle, on revient avec beaucoup de staff. C'est ça l'événementiel, c'est de créer des dynamiques où on a des tournois réguliers avec une petite dizaine de tables. Et on peut avoir des événements comme celui-ci avec 40, 50 tables. Et ça, dans ce casino qui est très spécifique ici à Aix-en-Provence, ça arrive une fois par mois, voire une fois tous les deux mois.
Et comment vous gérez, vous, chez Texas Poker, cette flexibilité de staff? Parce que du coup, vous avez des tournois mensuels ici, avec des festivals un petit peu plus gros, comme tu viens de le dire, comme le Giant, qui vont arriver de temps en temps. Mais en fait, vous gérez ça dans combien de casinos en France? Donc, comment vous arrivez à tout gérer comme ça, à faire la tentacule dans toute la France?
La tentacule, c'est très joli, c'est très joliment dit. On a 22 établissements partenaires, dont deux casinos à l'étranger, San Remo en Italie et Barcelone en Espagne. On a une organisation qui est particulière dans chaque établissement. Il n'y a pas un contrat type, il n'y a pas une prestation type, il n'y a pas une organisation type. Globalement, on a un gros service RH. On a beaucoup de croupiers qui ne travaillent pas pour nous. Nous, on est comme un peu une boîte d'intérim, entre guillemets. On va trouver les croupiers pour les tournois. On a plus de 500 croupiers qui gravitent autour de nous. On a une vingtaine de managers qui nous aident et qui nous accompagnent sur les événements. Comment on fait? Écoutez, ça fait plus de 15 ans que cette boîte existe. Elle s'est évoluée d'année en année. C'est de l'événementiel, donc c'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de liberté pour les croupiers parce qu'ils n'ont pas un engagement comme un contrat en CDI. Donc s'ils ne veulent pas travailler telle semaine pour partir en vacances ou faire ce genre de choses, ils ont cette liberté. Après, maintenant, d'année en année, avec notre expertise, on évolue nos croupiers. Ils deviennent floors, ils deviennent directeurs de tournoi. On forme des croupiers de façon régulière. On a entre 4 à 6 formations par an qui va former entre 8 à 10 croupiers par session. Ce sont des formations qui sont 100% gratuites. C'est nous qui finançons le formateur. Ça, il faut se renseigner du coup sur notre site internet. On a beaucoup d'offres, on recrute toujours. Il y a toujours un développement dans cette société qui est permanente. Donc on a toujours besoin de nouveaux croupiers aujourd'hui. Donc à tous les passionnés de poker, si vous aimez la liberté, si vous aimez voyager, si vous êtes passionné de ce jeu, ça c'est le plus important, venez nous voir.
Toi François, du coup ça fait un moment que tu travailles pour Texas Poker. J'imagine qu'au moment où t'es rentré dans la société, t'étais déjà passionné par le jeu. François, tu me disais en off que ça fait 7 ans que tu travailles pour Texas Poker, 17 ans que tu t'intéresses au poker. Comment on devient joueur de poker?
C'est une bonne question. Ça fait 17 ans en effet que professionnellement je suis dans ce milieu. Aujourd'hui, le poker est un jeu qui est quand même très particulier. On a parlé des règles, mais parlons du jeu d'argent. Le jeu d'argent, c'est quelque chose qui peut freiner certains comme les attirer. Donc attention déjà, petite prévention, le jeu d'argent, c'est interdit au moins 18 ans. Jouez que ce que vous pouvez perdre. Ne pensez pas que vous pouvez que gagner de l'argent. On perd d'abord et on est là pour s'amuser avant tout. Jouer que ce que vous pouvez vous perdre. Déjà, ça, c'est important. Ensuite, comment on devient joueur de poker? Donc, il y a plusieurs issues. Ça vient de l'associatif. L'associatif, on joue un peu sans enjeu. Alors, je dis un peu parce qu'il y a une cotisation, un peu comme dans un club de foot. Mais ce n'est pas un enjeu qui est important. On arrive à apprendre le poker dans un aspect qui est ludique dans une association. Donc, du coup, il n'y a pas d'enjeu, mais il n'y a pas de mise. On ne joue pas d'argent directement. Donc, c'est une très bonne école pour apprendre les règles, pour apprendre toutes les particularités de ce jeu. Ça, c'est facile. Il y a pas énormément d'associations en France. Il y en a entre 300 et 400, quelque chose comme ça. Donc oui, ça fait beaucoup, mais bon, vu le territoire que nous avons, ça fait pas si nombreux que ça. La deuxième façon de devenir joueur, bah, c'est le bouche à oreille. C'est j'ai un copain qui joue à la maison. Tiens, regarde, j'ai gagné un peu de sous sur Internet. Bah, tiens, viens, il y a un championnat gratuit. On peut jouer sur tel site Internet, etc., etc. Le online, c'est une façon aussi ludique qu'il est un peu moins que l'associatif parce que du coup, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire quelle erreur on a fait. On va jouer gratuitement, on va comprendre les combinaisons, on va comprendre les tours de mise, mais on ne va pas comprendre forcément les subtilités de ce jeu. Après, il y a du contenu vidéoludique sur Internet que l'on peut trouver, mais on est très vite confronté aux jeux d'argent sur les sites Internet. Donc du coup, ce n'est pas forcément la meilleure des approches, mais c'est une des approches qui font qu'on arrive à créer des nouveaux joueurs de poker en France.
Oui, c'est vrai que le poker en ligne, ça a explosé, notamment après le Covid, comme tu me le disais en off, ce qui a aussi permis d'attirer de nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que jouer dans son coin, c'est quand même pas la même chose que jouer en tournoi, jouer en asso, en MTT, entouré. On voit ça en France quand même avec les clubs associatifs, Red Cactus qui aussi fait beaucoup de choses pour que les joueurs se multiplient, apprennent dans de bonnes conditions. Et vous avez tous le même discours que je parle avec des professionnels du milieu du poker ou avec des amateurs. L'idée, c'est vraiment toujours de jouer pour s'amuser, pour le plaisir, dans la convivialité et qu'on mette de l'argent ou qu'on n'en mette pas. L'idée, c'est vraiment de rester dans cet esprit de s'amuser en tout cas.
Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Le poker est un jeu. Donc, quand on parle de jeu, on parle de s'amuser. Même s'il y a de l'argent, il faut jouer pour s'amuser. Sinon, si on joue plus pour s'amuser, ça devient plus un jeu et ça devient une addiction et on part dans quelque chose qui n'est pas sain. Encore une fois, faut jouer ce que l'on peut se permettre de perdre.
Merci beaucoup François, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer pendant ce week-end, de t'avoir pour le micro du Tilt Show sur Radio Graphite. Et puis, bah, je te souhaite bon courage parce que le tournoi n'est pas fini. Hein.
Merci Aurore, merci à tous, à très bientôt, au revoir.
Et aujourd'hui, dans les clés du poker, on va parler de la demande de time.
Ah, quand est-ce qu'on dit, quand on en a marre qu'un joueur tank, quand est-ce qu'on lui donne le time ? Ça m'intéresse.
Déjà, il va falloir attendre qu'il y ait un délai raisonnable qui soit écoulé. On ne va pas demander le time après 10 secondes de réflexion. Ça dépend selon l'usage, ça dépend le délai, ça dépend de l'importance du coup qui est joué, mais c'est jamais inférieur à une minute déjà.
Donc on attend d'abord une minute.
Minimum. Faut patienter un petit peu. Hein. C'est du poker quand même, faut être patient. Et donc au bout d'une minute, éventuellement, le time peut être demandé. Cette demande, elle peut être faite par tout joueur en jeu dans le tournoi, assis à la table, ou par un responsable de tournoi.
Ah, en jeu dans le tournoi, mais pas forcément en jeu dans le coup, du coup.
Pas forcément, assis à la table. Okay. Donc en jeu dans le tournoi, même un joueur qui n'est pas dans le coup, il peut demander le time. Okay. Il est assis à la table.
Il en a marre que les blindes tournent pour rien, et du coup...
Exactement, un joueur short stack qui voit qu'il y en a un qui fait exprès de tanker à chaque fois, à chaque main...
Bon, il prendra une pénalité. Il aura plus que 30 secondes pour réfléchir.
C'est
à
ça.
À chaque main.
Du coup, il y a le time. Il doit être validé par l'arrivée du floor. Et il peut être refusé ou retardé par le floor s'il estime que la demande elle est faite trop rapidement.
D'accord.
Oui, toujours le floor, il demande au croupier d'abord, si c'est raisonnable ou pas.
C'est ça.
Toujours.
Toujours. Le joueur qui hésite, il se verra alors donner 30 secondes pour prendre une décision, les 5 dernières secondes étant décomptées à haute voix.
Ouh.
Le petit compte à rebours à la fin, ça ne met pas la pression quand on est en train de réfléchir, en plus c'est sympa.
Bon, enfin bon, si ça fait 3 minutes 30 qu'on réfléchit, c'est bon, quoi.
C'est ça. En général, la décision, elle est déjà prise. Hein. C'est de l'acting, après. Cette durée, elle peut être modifiée, du coup, si le floor le juge nécessaire. Si le joueur n'a toujours pas agi à la fin du décompte, sa main sera brûlée. Du coup, fold automatique.
Ok. Ouais, s'il dit rien, c'est foldé, quoi.
C'est ça. S'il agit au moment de la fin du décompte, sa décision, elle sera prise en considération. Le time sera décompté par un floor ou par un joueur désigné par celui-ci non engagé dans le coup.
Tant qu'à faire.
Logique. Impartialité, toujours. Et du coup, l'abus de demande de time peut être sanctionné, de même que l'abus de lenteur.
Oui, ce que j'allais dire, combien de fois on peut demander un time? Si moi, je suis un joueur pressé et que je demande le time à Thierry Larrigaud, non, ça peut être sanctionné aussi.
Ça peut être sanctionné aussi, le fait de le demander tout le temps. Okay. Parce que, voilà, après, c'est le floor, du coup, qui va décider à chaque fois, qui va essayer de faire en sorte de prendre la meilleure décision pour que ça soit le plus impartial possible pour tout le monde.
Très bien. Et quelqu'un qui est trop lent, de la même manière, peut être sanctionné aussi. Ce qui est logique d'un côté. Hein.
Ce qui est logique, parce que ça peut influer sur le jeu, ça peut changer la dynamique vraiment, surtout sur des tournois multitables, où on peut avoir beaucoup de tables encore à côté.
Oui, ça peut ralentir trop le jeu par rapport aux autres tables, ça, en fait.
Quand on approche surtout des périodes de la bulle, de l'ITM, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de joueurs qui se mettent à tanker beaucoup plus que d'habitude.
Moi, ça m'est arrivé une fois de le demander en tournoi, un time, et le mec, il a super mal pris. Du coup, il a dit, oui, ben, du coup, puisque j'ai 30 secondes, eh ben, je vais attendre la fin de mes 30 secondes pour folder. Parce qu'en fait, moi, je lui ai dit, je demande le time parce qu'à chaque fois que tu réfléchis, tu foldes.
C'est contre moi que t'as demandé le time ?
Non.
J'aurais pu avoir cette réaction-là.
Non, c'était un joueur, ça faisait plusieurs heures qu'on jouait ensemble, et à chaque fois qu'il tankait un peu, en fait, il foldait. Je le voyais très bien, pour le coup, ça, j'avais bien remarqué. Et donc, à un moment, j'ai demandé le time parce que j'en avais marre de le voir tanker pour rien, en sachant que, de toute façon, il avait déjà pris la décision de folder. Il l'a super mal pris. Bon, je m'en fiche, hein, c'est pas grave.
Ouais, mais après, je suis pas là pour faire plaisir. Il en abuse aussi. Ouais.
C'était systématique.
Faut respecter aussi les gens autour de la table, il faut pas abuser. On peut l'utiliser, ça peut être pratique, mais il faut pas en abuser.
Tom, t'as déjà demandé le time, toi, en tournoi ? Parce que t'es plutôt un joueur qui aime pas trop non plus voir les autres tanker pour rien.
Je sais pas trop, non, je pense pas.
Pas en tournoi, juste en MTT pour embêter le monde, quoi.
Ça met un petit coup de pression aussi des fois, hein. C'est le fait quand on est entre nous sur des petits tournois sans enjeu entre guillemets, de le demander assez rapidement, ça peut mettre un petit coup de pression, pousser à la décision rapidement.
C'est vrai.
Après, sur les tournois, c'est rare qu'on les demande quand même.
Non, c'est des choses qui se font pas beaucoup, mais c'est intéressant quand même de savoir quand est-ce qu'on peut le demander. C'est des situations qui arrivent quand même dans les grands tournois, en général, une ou deux fois dans la journée, par tournoi, ça se passe.
Non, mais je savais pas qu'on pouvait quand même le demander si on n'était pas dans le coup, en fait. Je pensais que c'était que les joueurs dans le coup, mais...
Faut juste être assis à la table, en fait, et
oui, logique.
Être en jeu, quoi. Être en jeu, avoir des jetons et être assis à la table. Mais en effet, si toi, par exemple, il te reste, je sais pas, deux ou trois bébés devant toi, et que le mec, il arrête pas, bah, au bout d'un moment, tu vas peut-être en avoir marre, et toi, tu vas peut-être le timer, même si t'es pas dans le coup, quoi. Ouais.
Du coup, on a le droit. Très bien, c'était clair.
Bon, s'il te reste 2-3 bébés, tu times personne. Ça t'arrange que tout le monde tanque.
Tout dépend à quel
endroit. Ça peut ou ça peut.
Si t'es à 2 places de l'ITM...
Ah, justement, t'es content que tout le monde tanque si t'as 3 bébés.
C'est vrai.
Je te demande vrai, pas. Hein. Je demande si j'ai un gros stack, mais pas si j'ai un petit stack.
On est d'accord.
Mais c'est possible.
Mais c'est possible.
Allez, on va faire notre rubrique préférée.
La main parfaite du Tilt Show.
On est toujours dans le Tilt Show sur Radio Graphite et nous avons notre rubrique La main parfaite que Boule a préparée pour nous aujourd'hui.
Et avec du cœur, beaucoup de cœur, puisqu'on va jouer à 10 et 8 à cœur aujourd'hui. On est sur un sit and go 6 joueurs. On est au cut-off. Donc tout le monde a, c'est le début du tournoi, tout le monde a environ 25 bébés de départ. Okay.
On est en ligne, du coup, c'est du poker.
On est online.
Ok. Et du coup, on joue pas tout à fait pareil, donc ça.
Et cut-off, tu nous rappelles où c'est pour nos auditeurs ?
Cut-off, c'est la place juste avant le bouton.
Merci beaucoup.
Et du coup, préflop, on a le joueur qui est UTG qui open 2,5 bébés.
Ok.
Payé tout de suite derrière par le joueur UTG plus 1.
D'accord.
C'est du coup, moi, je fais un call aussi. Hein, on va essayer de faire une petite family pot. Petite family pot pas cher au départ.
Ouais,
2,5 bébés.
Ouais, je pense que je paye aussi, moi, 10 et 8 à cœur, j'aime bien.
Ne jamais payer. Soit tu couches, soit tu relances. Soit tu 3 bêtes. Tu peux pas...
Et alors, tu fais quoi? Tu te couches ou tu 3 bêtes? Bah, faut faire un choix à un moment.
Tout dépend, mais ouais, c'est soit coucher, soit 3 bêtes. Mais c'est pas collé, parce que collé, tu sais pas où t'es dans le coup.
C'est vrai qu'on a la position, en plus, derrière.
Après, t'as un As-10 qui peut rentrer, il y a les Rois-10 qui peuvent coller, t'es perdu.
Tout peut coller à ce prix-là. Hein. De toute façon, il y a déjà 2 joueurs dans le coup. Si on rentre, ça fait 3. Il y a les blindes qui arrivent encore derrière, ouais, plus le bouton.
C'est soit un fold, soit un 3 bêtes pour moi.
Ok.
Bon, il se trouve que là, on a just call. Du
moi, j'ai just call.
Qu'on fait les blindes
Le bouton, déjà, lui, okay. Il a foldé. La petite blinde a foldé. Et la grosse blinde, elle a juste complété. Elle a 1,5 bébé rajouté.
Justement, 3 bêtes, ça évite peut-être que la grosse blinde rentre.
Par c'est possible.
Avec un 10 et 9 qui nous battrait.
Mais 3 bêtes, c'est une option. À la limite, oui, je préfère que tu fasses à 3 bêtes plutôt qu'un fold. Hein. Sur ce coup-là...
Ça dépend, ouais.
Donc on est 4, finalement.
On est 4, du coup, dans le coup. Et c'est le flop arrive avec le 10 de pique, le 7 de trèfle et l'as de cœur. On a pris deuxième paire.
Ouais, on a notre
c'est
10.
C'est pas terrible, terrible. Il y a l'as qui est tombé. Il y a de fortes chances qu'avec tout le monde qui est dans le coup, il y a quelqu'un qui est l'as.
Un peu nulle part, ouais.
La big blind fait un check.
Logique.
Le joueur qui avait relancé, donc l'UTG, qui avait relancé pré-flop, lui, il décide d'open à 3,5 bébés.
Waouh.
Cher.
Cher, ouais.
Bah, y a on a déjà un pot qui fait 11 bébés. Hein.
Ah, mais c'est cher. Ouais.
Ça fait un tiers pot.
Ouais, c'est cher un tiers pot quand même.
Un peu moins d'un tiers pot, ouais.
Ok.
C'est pas... Ouais, il annonce certainement ce qu'il avait annoncé au départ, qu'il avait l'as. Il continue son histoire, quoi. Après, le joueur qui est UTG plus 1, lui, fait un fold.
Ok. Et du coup, on peut se dire que si on le paye, on va être tous les deux, parce qu'il y a de grandes chances que la big blind, elle se couche.
Qu'on est en dessous déjà. Aussi.
C'est ça.
Oui.
Et qu'est-ce que tu ferais, toi, Aurore, du coup, à ce moment-là?
Bah, je suis partagée parce que du coup, tout ce qu'on joue, c'est backdoor. La couleur, on peut encore la toucher, mais backdoor. La quinte, on peut encore la toucher, mais backdoor.
Ouais, t'oublies que tu peux toucher ton brelan, tu peux toucher tes deux paires.
Ouais,
t'as encore vrai. Pas mal d'out.
La backdoor.
Mais
de toute façon, ce sera forcément backdoor puisque le flop est tombé.
Ouais. Oui, mais du coup, j'ai pas grand chose de concret là tout de suite à part ma deuxième paire avec mon 10.
C'est ça.
Même si je touche un 8, hein, ça me fait double paire, mais ça lui fait peut-être rentrer des quintes. Bon, après, si on se dit qu'on le voit sur l'as.
Après, il peut avoir as-10 aussi, faire double paire et que tu touches ton 10 et lui, ça fasse full et toi, tu fasses brelan seulement.
Aussi.
Donc, au bout du compte, j'ai l'impression qu'on joue pas grand-chose. Mais le fait de se dire que si je le paye, on risque d'être que deux. Mais bon, je sais pas, la big blind, elle est derrière. Elle peut se dire qu'elle a la cote, elle va y aller. Je sais pas. Franchement, je suis partagée. En tournoi, en vrai tournoi, je pense que je fold. En live, je veux dire. Peut-être qu'en ligne, je prends un peu plus de risques. Tu vois. Mais en vrai, ma vraie décision, ça serait de folder.
Ok. Tom?
Lui, il est déjà parti. Ah non, lui, il a 3 bêtes.
S'il a 3 bêtes.
Ouais. J'ai 3 bêtes.
Oula, c'est mort. Il se retrouve même plus coup, dans le même coup. Ouais.
Ouais, moi, pour moi, c'est un. Bah, d'après ta main, toi, c'est un fold. Ouais.
Toi, tu t'arrêtes ici.
Moi, c'est un fold. Ouais.
Et ben, moi, j'ai juste call.
Allez.
J'ai juste call. Par contre, bah, comme tu disais, Aurore, justement, et tu l'as bien souligné, bah, ça a donné la cote à la grosse blinde. Qui a call aussi, du coup.
Et ouais.
Et
donc là, on se retrouve dans un aquarium, en fait, là.
Là, là c'est un peu... ouais.
Là, on sait pas où on en est.
Ouf, à ce moment-là. On se doute qu'on n'est pas devant. Et... Bon, ça fait monter un pot à 21,5 bébés.
Énorme.
Ah, ça fait presque un stack de départ. Hein. Le stack de départ, il est autour des 25 bébés. On a presque...
Avec 10 et 8, double paire, simple paire.
Mais finalement, bah, on a mis que 6 bébés dans ce pot-là. Quoi. Ça, nous, ça, il nous reste 19 bébés encore à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'on touche à la turn?
La turn arrive, c'est un 6 de cœur. La brique. Mais qui fait quand même rentrer les tirages cœur.
Notre tirage cœur.
En l'occurrence.
Qui fait rentrer notre tirage quinte, mais en gutshot.
Aussi, mais en ventral, c'est compliqué.
Donc on va être
après, on est online, hein. Rien n'est jamais compliqué online. Hein, mais...
non, mais enfin, en vrai, si j'ai continué comme toi jusqu'à là, je lâche plus rien. Je peux toucher mes cœurs, je peux toucher ma quinte, je peux toucher mon brelan, je peux toucher ma double paire. Là, je joue trop de trucs, en fait.
Là, déjà, là, on a la bébé qui check, encore une fois.
Il check, là, l'UTG.
Non, la bébé.
Ah, la bébé. L'UTG, il envoie 6 bébés.
C'est all-in. Si je suis arrivé dans ce coup-là, pour moi, c'est all-in.
Ouais, je suis d'accord. Bon, soit je le colle, soit je fais all-in, mais de toute façon, je lâche rien, hein, j'y vais jusqu'au bout. Là.
Alors, tu colles ou tu fais all-in ?
N'importe, ça change rien, je veux voir la river, en fait.
Ok, moi, je colle. Je l'ai juste call, j'ai été voir la river. Bon, la river est magique pour nous, puisque c'est un 9 de carreau. Ça fait rentrer aucune couleur.
Vive Winamax.
On touche notre quinte. On est royal. Et en plus, la bébé part all-in tout de suite. Il n'y a pas trop de décision, là, du coup.
C'est... Oui, il y a quoi qui nous bat, du coup ? Il y a J8
Non, même pas. Ouais, si, J8.
Ça ferait rentrer la quinte supérieure.
J8, mais est-ce qu'il aurait agressé tout pot comme ça ?
Oui, on avait
il a quand même annoncé l'as dès le départ. On le voit sur... Enfin, personnellement, je le vois sur un as depuis le début, quoi. C'est...
Ah, UTG, ouais.
Là, c'est le call jusqu'au bout. Alors, c'est pas un coup à conseiller dans les écoles. Je précise, mais bon.
C'est le genre de main qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et dire « Ah, il m'a craqué !»
Ouais, il avait finalement, quoi, ça a été pas cher tout le long. Il m'a laissé la cote tout le long du coup, finalement. À partir du moment où, pré-flop, j'ai décidé de call les 2,5, il n'y a aucun moment où il a envoyé assez pour me faire coucher, en fait.
Et il avait quoi ? On a vu
Il avait As-Roi. Bah, du coup, on a vu, puisque c'est lui qui envoie au line et qu'on le paye, on a vu, il avait As-Roi. Donc, il avait bien son As, bien kické. Il était bien fort depuis le départ et bien devant nous. La river magique d'un site qu'on ne citera pas. Mais merci beaucoup.
D'un site partenaire de la FFPA.
Aussi.
L'écho des tables.
Et oui, aujourd'hui dans le Teen Show, pour l'écho des tables, on a envie de parler d'un sujet qu'on a légèrement abordé en début d'émission.
Faut-il faire un coaching du coup pour progresser au poker ? On va parler un peu des coachs poker aujourd'hui. Et du coup, on va commencer par déjà être bien d'accord sur tout ça. C'est tout à fait possible de devenir un très très bon joueur sans jamais se faire coacher déjà.
C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de ressources online.
Je suis pas si sûr que ça, moi, Boule, parce que tu regardes, même les joueurs professionnels sont coachés ou ils ont des... Peut-être pas coachés comme nous, on devrait le faire, mais ils ont des études, des groupes de travail où ils travaillent leur poker, en fait.
Je suis d'accord avec toi, mais en fait, il existe vraiment une grosse quantité de livres ou de vidéos qui sont disponibles gratuitement ou seulement pour des petits prix, pour les livres ou des choses comme ça. Et... Il y a aussi des forums, des choses comme ça, où tu peux échanger aussi beaucoup avec les joueurs.
Après, le problème, c'est que dans les vidéos et les forums, on va entendre tout et son contraire.
C'est ça. Mais donc, ça n'empêche pas de devenir un très bon joueur.
Non, mais pour du coup s'en servir et vraiment apprendre, est-ce qu'il faut écouter l'un, est-ce qu'il faut écouter l'autre ? Enfin, c'est peut-être aussi compliqué de se positionner.
Peut-être pas avoir un coach, mais au moins un groupe de travail que tu as des joueurs capables de réfléchir à des mains, tu vois.
Mais du coup, c'est quoi l'intérêt du coach, en fait ? Bah, ça va être de surmonter les blocages qui durent depuis un petit moment chez vous.
Ouais, ça va par exemple, si on n'ose pas bluffer, si on a du mal à 3-bet, il y a plein de choses.
Par exemple, j'ai des... peur d'ouvrir un peu ses ranges d'ouverture, toutes ces choses-là. Découvrir aussi les erreurs importantes dans notre jeu qu'on n'arrive pas à identifier tout seul.
Par exemple, si on colle trop et alors qu'on devrait 3-bet.
Et on ne s'en rend pas forcément compte. Des fois, c'est notre style de jeu et on pense que c'est bien, mais on fait peut-être des erreurs.
Comme des tankers. Ouais.
Juste de revoir ou de consolider les fondamentaux du poker, les bases. Mm-hmm. C'est important. Détailler en profondeur vos objectifs, vos méthodes de travail pour les atteindre. Permettre de rester motivé, discipliné.
Parce que
il vous apporte ça aussi. Et travailler avec un coach compétent, ça vous fera gagner un temps précieux, surtout votre apprentissage.
Ah oui, c'est sûr. Que là, on a directement les bonnes réponses.
Exactement.
Tom, tu as fait un peu de coaching de ton côté. T'en es content? Comment ça se passe?
Oui, que j'en suis content en fait. J'arrivais pas trop à passer les ITM, on va le dire en gros. Et avec une range ouverture ou 2-3 bêtes, je pense, j'ai réussi à passer ce palier-là sans difficulté en fait. Donc je pense que ça sert vraiment. Ouais.
Mais toi, je sais que quand t'as travaillé avec le coach, à côté, t'as vachement travaillé aussi pendant cette période-là, personnellement, quoi, ou vraiment, t'en parlais pas mal. Je vois que tu me fais un petit signe de la main, là, sur le
côté. Ouais, Tom, il fait genre, il est toujours un peu feignant et tout.
T'en parlais, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'un coach, il fera jamais le travail non plus à votre place.
Mais non.
Il faut quand même beaucoup, beaucoup de travail personnel derrière tout ça, quoi, et pour assimiler tout ce que vous apprend le coach, quoi.
Ouais, non, c'est sûr qu'il faut travailler beaucoup, ouais. Parce c'est dur, mais il faut travailler. Ouais.
À chaque fois que tu as fait une séance avec ton coach, derrière, même si tu n'allais pas jouer en casino direct pour appliquer, tu as quand même toutes les semaines essayé d'appliquer sur les MTT, sur les petits tournois comme ça, amateurs, associatifs, que tu as fait. Enfin, l'idée, c'était de pouvoir travailler.
Ouais, mais apprendre aussi. L'association, c'est pas du tout pareil, tu vois.
Même sur Internet, tu l'as pratiqué aussi, quoi.
Oui, même sans faire exprès, tu vois, peut-être.
Peut-être inconsciemment, mais essayer de mettre en pratique tout ce qui avait été relevé pendant ton coaching.
Oui. En tout cas, le check raise, j'arrête.
Ok.
Trop dur pour moi, quoi.
C'est pourquoi c'est ton coach qui t'a dit que c'était pas une bonne technique ou c'est...
Ah si, il m'a dit que c'est une très bonne technique. Quand même.
Et pourquoi t'arrêtes?
C'est trop dur.
Que tu te prends des bastos derrière,
c'est
parce que
ça. Quoi. Souvent.
T'es pas assez crédible.
Le check raise, c'est une arme à double tranchant. Hein. Faut être en général bien armé quand on.
Moi j'aime bien
faire
ça.
Aller dessus. J'aime bien faire ça quand je suis max.
Comme j'aime bien checker, j'aime bien faire le check raise.
10 moments qu'il y a le check dedans pour tout va bien.
Ouais, c'est bien, ça me convient. Là, on parle beaucoup du coaching technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le coaching en préparation mentale. Ça peut être aussi un coaching un peu physique pour quand on a des grands événements qui arrivent.
Et oui, tout est lié. La tête, la condition physique, tout est lié dans le poker.
Il y a des coachs qui font que l'un ou que l'autre. Dans mon livre Coup de poker, j'ai eu la chance d'interviewer Brigitte Corac, qui est préparatrice mentale. Mais elle ne fait pas du tout de coaching technique. Par contre. Mais au CFIPA, à la finale nationale, il y avait Fabien Perrault, on l'a dit tout à l'heure, qui est coach, et lui, il fait un peu de tout. C'est un coach holistique. Il est préparateur mental.
Il est joueur pro aussi de poker.
C'est ça, d'abord, il est joueur, en fait.
À l'origine.
Et puis, il s'est spécialisé dans le coaching technique, mental, sportif aussi, donc il y a aussi un côté préparation physique. Et j'ai eu la chance de l'avoir au micro du Tilt Show, si vous avez envie qu'on écoute son interview.
Ah oui, avec grand plaisir.
C'était quelqu'un de très très sympathique, en tout cas, c'était chouette, vous allez voir ça. Je suis avec Fabien Perrault, coach technique et mental, et joueur de poker par ailleurs, bien évidemment. Fabien, bonjour.
Bonjour, au revoir, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi, en direct, oui, d'Aix-en-Provence.
Absolument, on a vu en plus sur les tables et tout, c'est hyper chouette depuis cette mezzanine. Dis-moi, Fabien, tu es là en tant que partenaire. Qu'est-ce que tu vas offrir à nos joueurs aujourd'hui, à la fin du week-end?
Eh bien, écoute, pendant tout le week-end, je leur offre de la bonne humeur. J'essaye, en tout cas. C'est une offre mutuelle, hein, en général. Je fais des conférences tous les jours ici à Aix-en-Provence et je participe également, effectivement, à la dotation. Et donc, chaque joueur de la table finale gagnera du coaching avec moi.
Nice. Donc du coup, ils vont déjà être bien s'ils sont payés, qu'ils sont en table finale. Et du coup, c'est pour les rendre encore meilleurs pour les tournois suivants.
Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est de... La table finale est quand même bien dotée. Et une bonne partie des joueurs de la table finale vont aller faire des beaux tournois live suite à leur performance ici. Et du coup, si je peux les aider à préparer ces tournois, c'est quand même cool. Donc à la fois les préparer et potentiellement les aider pendant l'événement en question.
C'est super parce que c'est vrai qu'en tant que joueur amateur, on est rarement préparé à ce genre d'événement. Déjà, on se rend compte que le niveau, il est quand même pas mal ici. C'est que les meilleurs joueurs de chaque club de France qui sont représentés. Donc, du coup, les préparer, c'est super pour peut-être faire un level up par la suite. Dis-moi, en quoi consiste le coaching technique
et ou mental, enfin vraiment concrètement ça va prendre quelle forme?
Alors écoute, le coaching, on entend beaucoup parler de coaching à l'heure actuelle dans le poker, dans d'autres domaines aussi. Dans le poker c'est très particulier parce que d'un coach à l'autre on va pas nécessairement travailler la même chose forcément. Quand tu as un joueur qui vient pour travailler avec toi, alors là je fais référence à un joueur qui vient, qui fait la démarche volontaire pour venir travailler avec toi, l'idée c'est qu'il a déjà derrière la tête, il souhaite quelque chose, il souhaite progresser d'une manière ou d'une autre. Certains c'est avant tout la partie technique, je dirais que c'est quand même la majorité. Et d'autres, c'est avant tout la partie mentale. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas dissocier les deux. Donc je vais travailler les deux avec quasiment tout le monde. Et l'idée, ça va être de les faire, tu parlais tout à l'heure de level up, step up. Et bien on va essayer de les faire progresser sur différentes thématiques, différents domaines. Et je vais leur apporter mon expérience de coach, mon expérience de joueur. Et entre guillemets, l'idée, c'est vraiment les faire progresser là où ils ont des axes d'amélioration qui sont clairs, que eux connaissent, mais je vais aussi, moi, en tant que coach, essayer de détecter des axes d'amélioration qu'ils n'ont peut-être pas perçus, parce que des fois, dans ton jeu, tu vas avoir des erreurs, mais que tu ne vois pas. Ou au niveau comportemental, tu vas commettre des erreurs, mais que tu ne vois pas, et donc je vais être aussi un petit peu le regard extérieur qui va repérer ces erreurs et les corriger ensemble.
Du coup, tu interviens sur les tournois en live ou tu interviens sur les tournois en ligne? Parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu sois derrière eux à regarder comment ils jouent, ou est-ce qu'ils vont streamer une partie qu'ils vont faire en ligne et puis ils vont te l'envoyer et puis tu vas analyser ça? Parce que c'est pas du tout la même façon de jouer non plus.
Je fais les deux. Donc je fais tournoi en ligne et tournoi en live. Alors à noter qu'en ligne, tout le travail qui est fait en ligne, j'ai pas le droit d'être derrière le joueur pendant qu'il joue de manière légale. On appelle ça du ghosting. Et puis j'aurai encore moins le droit de lui dire quoi faire, évidemment. Mais par contre, oui, le côté observation, bien sûr. Et on va beaucoup travailler à froid ou sur la partie online. On va regarder des replayers, on va analyser les mains, on va utiliser des logiciels spécifiques supplémentaires pour analyser des choses. Et puis après, il y a aussi la partie live, effectivement, où en live, là, je peux être présent et à ce moment-là, tourner autour des tables, observer, regarder, discuter, débriefer ensemble à la pause, mettre en place une stratégie, une tactique, des choses comme ça, ouais.
Dans le Tilt Show, on a parlé de GTO Wizard il y a quelques semaines. Est-ce que ça fait partie des outils que tu utilises?
Oui, tout à fait. Au niveau des solvers, j'utilise Peak GTO et GTO Wizard. Donc, ce sont principalement les deux solvers que j'utilise. Et oui, ça fait partie des outils. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. IC Miser, Flopsilla Pro, HRC. Et en fonction des joueurs, je peux utiliser beaucoup d'outils ou pas. Certains joueurs, pour des raisons X ou Y, on va éviter de trop s'appuyer sur des outils, surtout quand on travaille sur la partie mentale.
L'an dernier, quand on est parti à Vegas, on a vu ça, des joueurs pros qui étaient notamment en table télé, et à la pause, ils allaient voir leur coach derrière et tout. Donc tu fais ce genre de truc du coup?
Oui, totalement. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand tu étais à Vegas, j'étais également présent, mais on ne se connaissait pas, et on s'est peut-être croisés sans le savoir. Et j'ai un de mes élèves, Kevin, qui a fait une table finale sur un event, un bracelet event, donc un World Series, et je l'ai accompagné. Alors j'étais en train de jouer en même temps sur un autre event en même temps que lui, donc je prenais des pauses sur mon tournoi, mais même pas les pauses imposées, je prenais des pauses volontaires. Je devais traverser tout le casino parce que je jouais de l'autre côté, j'arrivais, je venais, on faisait un petit debriefing, je repartais, et après j'ai eu la chance de bosser, enfin je dis la chance entre guillemets, parce que mais dans ce cas là ça valait quand même la peine parce que son tournoi était plus important que le mien à ce moment là il y avait quand même un bracelet au bout, tu vois, et du coup j'ai pu terminer le tournoi à ses côtés, et effectivement il pouvait se lever entre les mains, tout ça, donc c'était plutôt cool, ouais.
C'est lui qui a eu de la chance que tu bustes finalement.
Oui, tout à fait. Après, on est une équipe, donc voilà. Et je fais passer mon rôle de coach avant mon rôle de joueur. Je pense que c'est une responsabilité que tu as quand tu es coach. C'est une chance mutuelle parce que en tant que coach, quand tu as un joueur qui deep run, c'est quand même c'est magnifique.
Et du coup, il a fait quoi ton petit poulain ce jour-là?
Eh bien, donc il fait table finale et premier boss de la table finale, malheureusement, mais c'est un souvenir extraordinaire.
Bravo à lui. J'ai entendu Gabi, le président de la Fédé, qu'on a aussi reçu sur le Tilt Show il y a quelques semaines, te présenter aussi en tant que coach sportif. Alors, raconte-nous, est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une activité annexe? Est-ce que c'est un complément de ce que tu fais déjà?
En fait, j'ai une vision très holistique de la préparation de la performance, que ce soit pour un sportif, que ce soit pour un chef d'entreprise, que ce soit pour un joueur de poker. Je ne prépare pas que des joueurs de poker. Je prépare aussi d'autres profils. Ça reste plus sporadique, on va dire, quand même, parce que je travaille avant tout avec des joueurs de poker. Mais forcément, quand je travaille avec des personnes qui ne jouent pas au poker, on ne parle pas de poker, en tout cas pas de la partie technique du poker. On peut éventuellement faire des parallèles avec le poker sur la partie mentale, mais pas la partie technique. Et du coup, je vais avant tout me focaliser sur la partie mentale, mais ça peut être aussi la préparation physique et émotionnelle. Et oui, je fais aussi de la préparation physique pour des joueurs. pour certains spécifiquement. Ça reste quand même une petite partie de ce que je fais sur l'ensemble. Et j'en ai avec lesquels je vais faire une préparation totale, globale, notamment sur les joueurs qui vont faire des compétitions. Là, par exemple, cet été à Vegas, j'ai plusieurs joueurs qui partent. Et j'en ai certains pour lesquels j'ai fait une préparation totale, c'est-à-dire que technique, mentale, nutritionnelle, sportive, tout ce qui a touché aux émotions et ainsi de suite. J'estime que tout est lié. Je peux donner des conseils là-dessus aussi puisque j'ai la chance d'avoir aussi un parcours qui fait que j'ai été sportif, j'ai été entraîneur. Du coup, tant qu'à faire, autant mettre mes compétences au service des joueurs. Et voilà.
C'est sûr que quand il faut qu'on reste concentré pendant 8-10 heures à table sur des cartes et qu'on reste plus ou moins statique, je pense que la préparation physique derrière, en fait, elle est non négligeable parce que on a tous été à l'école et on se souvient qu'on en avait marre de rester assis, etc. Et je pense que cette préparation physique, elle sert aussi à ça, à pouvoir rester droit et, je sais pas, dis-moi.
En fait, pour ceux qui me suivent dans Live Poker, j'écris des articles tous les mois dans Live Poker. Et une partie de mes articles traite justement de la préparation. J'attache énormément d'importance à la préparation parce que je pense que pour performer un instant T, il faut être préparé. On ne va pas faire les Jeux Olympiques dans n'importe quel sport si on n'a pas toute la préparation qui va en amont. Au poker, l'idée est la même. Dans certains de mes articles, j'aborde non seulement la notion de préparation, mais je fais aussi des parallèles avec le monde du sport, le monde de la préparation sportive. Et j'estime que pour performer au poker, plus on est préparé, mieux c'est forcément. Mais plus on est préparé au niveau mental, au niveau du condition physique, la résilience, la résistance, au niveau du sommeil, plus on va être performant le jour J. Je pense vraiment que pour être performant au poker, c'est bien de faire une préparation comme le ferait un sportif de haut niveau. Et donc, du coup, pour pouvoir performer à l'instant T. Et être assis à une table, malheureusement, c'est pas vraiment une activité physique. Mais par contre, si tu as une bonne activité physique en parallèle qui te permettra d'avoir une meilleure tenue à table, plus performant surtout en fin de tournoi, quand tes adversaires commencent à être fatigués et compagnie, je pense que c'est quand même un bonus. Ouais.
Et oui, c'est là qu'il faut prendre les bons coups.
Oui, c'est là où il faut prendre les bons coups. Et franchement, je pense que toute ta préparation que tu as fait tout au long de l'année, c'est peut-être dans ces instants-là qu'elle peut vraiment payer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs de haut niveau. Et d'ailleurs, j'en ai de plus en plus qui font appel à mes services, mais mes services ou ceux d'autres personnes, peu importe. Mais en tout cas, qui font appel justement à ce type de préparation. Les joueurs mangent mieux, les joueurs se préparent mieux, les joueurs s'entraînent plus, ils font plus attention à leur sommeil. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement bénéfique. Et les Américains, les Allemands, certaines nationalités avaient un petit peu d'avance par rapport à nous là-dessus. Je trouve qu'en France aujourd'hui, les joueurs français sont en train de bien comprendre ça, bien implémenter ça, et ça fait extrêmement plaisir.
J'ai eu la chance, dans le cadre de mon livre Coup de poker, d'interroger une coach en préparation mentale qui fait sport de haut niveau, chef d'entreprise et joueur de poker aussi. Elle s'appelle Brigitte Corac. Et ce qu'elle me disait, elle, c'est que peu importe le cadre dans lequel elle va te coacher, que ce soit du poker ou du sport, etc., ce qu'elle va t'apprendre sur toi pendant cette préparation mentale, ça peut changer ta vie, et ça peut changer ta vie dans d'autres domaines que celui pour lequel tu es venu la voir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu appréhendes ça, toi, de ton côté?
Ouais, alors non seulement je suis totalement d'accord avec ça, alors j'approuve vraiment à 100%, et je pense que c'est au final, en tant que coach, c'est peut-être justement presque notre rôle, tu vois, d'arriver à faire en sorte que quand tu travailles avec quelqu'un, finalement, sur le long terme, c'est super cool de faire progresser des joueurs de poker dans leur domaine, dans leur jeu. Mais si on peut avoir une influence extérieure, c'est que mieux. Et d'ailleurs, j'ai un exemple assez intéressant qui me vient en tête. J'ai une de mes élèves que j'ai coachée en binôme avec son mari pour le poker. Donc, c'était vraiment exclusivement poker. Et ce qui est complètement impressionnant, c'est qu'avec elle, la préparation mentale n'était pas vraiment spécifiquement présente. Mais bon, c'est toujours lié, évidemment. Mais on n'a pas du tout axé sur la préparation mentale. Mais néanmoins, forcément, on a parlé de la confiance en soi et ainsi de suite. Elle avait des problèmes de confiance dans le poker. Elle n'osait pas bluffer et ainsi de suite. J'ai essayé de lui donner quand même quelques outils par rapport à ça. Et puis, elle a arrêté le poker. Mais par contre, elle m'a envoyé un message, je ne sais pas, peut-être deux ans et demi plus tard. Un message, mais vraiment magnifique. Je l'ai toujours d'ailleurs, le message, je l'avais conservé, j'ai fait un screenshot et je l'ai gardé. Je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que dans le message, elle me fait vraiment une éloge en me disant que j'ai été la rencontre la plus importante de sa vie. Et elle me dit que j'ai complètement changé sa vie parce qu'elle a toujours été au niveau professionnel, elle s'est toujours sentie bridée. Et elle n'a jamais, en fait, elle a toujours été dans des activités qui correspondaient pas, enfin, qui correspondaient à sa personnalité d'alors, c'est-à-dire très timide, très renfermée, ainsi de suite. Or, elle a toujours voulu aller plus loin et un de ses rêves, c'était d'être dans un métier dans lequel elle est en contact direct avec de la clientèle. Et donc, elle est devenue conseillère immobilière, ça a été son choix. Et c'est vrai que forcément, là, tu es en contact direct avec la clientèle. Et elle m'a dit, Fabien, si je n'avais pas travaillé avec toi pour mon poker, jamais, je te le dis, jamais j'aurais fait ce que j'ai fait maintenant. Et elle me dit, bah, pour moi, c'est magnifique, ça a changé ma vie, ça m'a permis d'avoir une relation avec les personnes qui est différente. Et quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, waouh, ça, c'est, tu vois, c'est, au final, c'est aussi pour ça que j'aime ce que je fais, parce que ce n'est pas du tout l'objectif à la base. La finalité, elle me paraît tellement plus riche que simplement la faire progresser à comment jouer un flop ou une turn, tu vois. Donc,
il y a des répercussions du coup sur la vie de tes clients qui sont bénéfiques, mais du coup bien au-delà de ce pourquoi ils sont venus te voir à la base, quoi. C'est formidable. Depuis combien de temps tu fais ce métier ?
C'était en 2012, si je dis pas de bêtises, à peu près. Donc tu vois, ça fait 13 ans. Et voilà, avant d'avoir après ma structure et ainsi de suite.
Fabien Perrault, tu nous as dit tout à l'heure que tu allais offrir à la TF du coup du coaching. Est-ce que ce sera du coaching individuel ou du coaching collectif ?
Il y aura les deux. Donc partie des joueurs pour les 5 premiers gagnent du coaching individuel. Et les suivants gagnent du coaching collectif.
Collectif, ça veut dire genre ils vont être un groupe de 20, comment ça se passe ?
Non, c'est en plus petit groupe. Là, ça va être des petits groupes de 3 joueurs en théorie. Ça peut être 2, 3, 4. En fait, ça va dépendre aussi des disponibilités de chacun, tu vois.
Du coup, c'est collectif, mais c'est quand même individualisé d'une certaine manière.
Oui, c'est suffisamment individualisé. C'est beaucoup moins de joueurs que, par exemple, quand je donne les conférences ici ou des choses comme ça, ouais, bien sûr.
Merci beaucoup, Fabien Perrault, d'avoir pris le temps pour le micro du Tilt Show sur Radio Graphite. On sait que tu es quand même très pris aujourd'hui, puisque tu as un petit poulain qui est en train de jouer. Tu as fait le tour des partenaires pour saluer tout le monde. Donc, voilà, très avenant. C'était un plaisir de te rencontrer. Est-ce que pour clore cette interview, tu aurais un petit mot inspirant pour nous ?
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Merci beaucoup pour les compliments. Ça fait toujours plaisir. On va pas les jeter. Kiffez ce que vous faites, quoi. Essayez de... Souvent, on joue au poker. Je vois beaucoup de joueurs de poker qui sont tristes ou qui sont en colère ou qui sont déçus ou qui en ont marre de la variance, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, n'oubliez pas pourquoi vous êtes venu au poker. Vous êtes venu au poker parce qu'a priori, vous aimez ça, parce que vous avez kiffé ça. Et faites en sorte de pas perdre cette notion de plaisir. Prenez soin de votre... de votre bonne santé mentale, de votre bonne santé physique, de votre santé émotionnelle. Donc prenez soin de vous.
Et voilà, prenez soin de vous. C'est le dernier mot de Fabien Perrault pour le Tilt Show. Et je trouve ça intéressant de voir qu'on peut se faire coacher pour le poker, devenir meilleur au poker, mais en fait avoir plein d'autres aspects de sa vie qui en bénéficient en fait.
C'est un tout, c'est un mode de vie.
On rappelle notre petite phrase de d'habitude, un numéro qu'on peut appeler en cas de problème d'addiction pour nous ou pour nos proches.
Le 09 74 75 13 13, disponible de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7, et aussi disponible sur chat.
Ils nous l'ont tous dit, hein, que ce soit Fabien, que ce soit François Lascourage de Texapoker, on ne joue pas plus que ce qu'on peut.
Et pas le portefeuille à l'envers pour le poker.
Et surtout, on garde le plaisir de jouer. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Chers acolytes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
À bientôt.